Chapitre 16e. Départ pour l'Afrique du Sud. La semaine du 10 au 17 décembre 1899 fut pour nous une triste semaine. Dans cet intervalle de 7 jours, le général Gataker perdit la bataille de Stormberg, Lord Methuen celle de Magersfontein, et le général Buller celle de Colenso. À elles trois, plus tard, elles n'eussent représenté qu'une toute petite action de la Grande Guerre. À l'époque, elles eurent un retentissement prodigieux. Sur le continent se produisait une agitation de mauvais augure. On parlait de coalition. Heureusement pour nous, l'Allemagne n'avait pas encore une flotte, et la nôtre était de taille à imposer sa maîtrise, sans quoi nous n'aurions pas tardé d'avoir dans l'Afrique australe un Lafayette, et peut-être, comme conséquence, un Yorktown. Tels quels, les événements étaient d'une gravité suffisante. Mais, comme toujours, la nation s'éleva magnifiquement à la hauteur des circonstances. Chacun s'empressa de faire ce qu'il pouvait. C'est ce qui explique que moi-même je me trouvais un matin, de bonne heure, à Hounslow, si j'ai bonne mémoire, en train de piétiner au milieu d'une file d'hommes qui attendaient de s'engager dans le yeomanry du Middlesex. J'avais un ou deux amis dans le régiment, de là mon choix. Assis devant une table de bois blanc, dans une salle de garde, le colonel, vieux militaire à cheveux gris, expédiait lestement son monde. Il ne savait pas du tout qui j'étais. Mais voyant devant lui un homme de 40 ans, « Je ne suppose pas que vous ayez l'intention de vous engager comme simple soldat. »« Je suis prêt à prendre un brevet d'officier, » lui répondis-je. Il me posa diverses questions. Savais-je monter à cheval et tirer ? Je répondis que je faisais moyennement l'un et l'autre. Avais-je un semblant d'entraînement militaire ? Je fis état d'une vie aventureuse. Je me flattais, non sans quelque exagération, d'avoir un peu vu les opérations du Soudan. Il est deux cas où un gentleman peut se permettre un petit mensonge, quand une femme est en cause et quand il s'agit de se battre pour un juste motif. Cependant, le colonel ne voulut m'inscrire que sur sa liste d'ajournée. Il prit mon nom, toujours sans me reconnaître, et passa au suivant. Je me retirai, l'oreille basse, ne sachant que faire, et me demandant si j'allais devoir m'en tenir là. Mais sur ces entrefaites, il m'arriva une offre qui, pour me promettre moins d'émotion, répondait sans doute mieux à mes capacités et à mon âge. Elle me venait de mon ami John Langman, dont j'avais connu le fils, Archie, lors de mon séjour à Davos. Langman équipait à ses frais un hôpital de 50 lits pour l'Afrique. Il avait déjà son état-major de chirurgien, mais non pas son personnel. Archie Langman devait partir avec l'hôpital en qualité de directeur. Son père s'adressa à moi pour l'assister dans le recrutement du personnel, faire fonction de médecin suppléant et exercer à titre officieux une surveillance générale. Je consentis à tout. Je passai une semaine auprès de Langman dans sa maison de Stanhope Terrace. Je choisis, entre force candidats, ceux qui me semblaient les mieux qualifiés, et l'expérience ratifia mon choix. J'avais beaucoup à faire. Au beau milieu de mes occupations, je reçus un avis qui rouvrait la question de mon engagement dans la yeomanry. Mais désormais, j'appartenais à l'hôpital Langman. Une fois complète, la formation se trouva constituer une bonne petite unité. Elle ne pêchait que par la tête. Le docteur O'Callaghan devait sa nomination de chef à ses relations d'amitié avec Langman. C'était à la vérité un excellent gynécologue, mais dont la spécialité ne semblait pas s'imposer en l'occurrence. Puis, ayant toujours mené une vie sédentaire, il était, malgré toute la bonne volonté du monde, peu adapté aux dures épreuves qui nous attendaient. Lui-même s'en rendit si bien compte qu'après avoir brièvement tâté de l'Afrique, il s'en revint en Angleterre. Pour nous rattacher au War Office, nous étions tenus d'avoir un chef militaire. C'était le major Drury, un Irlandais très amusant, qu'on eût dit sorti d'un roman humoristique de Lever. À l'entendre, il n'avait pas de plus haute ambition que de quitter le service pour épouser une riche veuve affligée d'un rhume. Il était, dans la vie civile, le plus gai des compagnons, mais dans des fonctions qui exigeaient du tact et de l'expérience, il apportait des méthodes par trop celtiques, ce qui amenait des frictions et par moments des prises de bec où j'avais à me ranger du côté de M. Langman. Il me prenait, sans nul doute, pour un animal intraitable, et quant à moi, je le jugeais... Mais il est loin aujourd'hui, et je garde de lui un très agréable souvenir. Sous les ordres d'O'Callaghan et de Drury, s'employaient de jeunes chirurgiens remarquables, Charles Gibbs et Charlib, ce dernier, fils de la doctoresse bien connue. Tous les deux témoignaient des qualités les plus belles. Nous avions ensuite nos chefs infirmiers, nos cuisiniers, nos stewards, nos gardes-magasins et 15 ou 20 auxiliaires. En tout, nous formions encore de 50 hommes, magnifiquement pourvus par la générosité de M. Longman. Un mois ou deux s'écoulèrent avant qu'il nous fût possible de nous embarquer. Je me rappelle l'incident plaisant qui survint au cours de cette période. J'avais beaucoup réfléchi sur ce qui pourrait être le meilleur mode d'attaque contre des hommes combattant à l'abri, et j'en avais conclu à l'inutilité d'un feu direct, puisque, s'ils connaissaient leur affaire, très peu d'entre eux devaient être vulnérables. D'autre part, supposer qu'on pût convertir le fusil en une sorte d'obusier portatif et en faire tomber le projectile, avec une précision approximative sur une étendue donnée, il me semblait que cette étendue serait difficilement tenable. Par exemple, étant donné une surface de 20 milliards carrés où 20 000 fusils déverseraient leurs balles, chaque carte carrée serait tôt ou tard complètement fouillée, et l'on aurait pour cible tout un corps aplati ou accroupi. Ce qu'en réalité je ruminais sans le savoir, c'était le barrage de mitrailleuses à feu plongeant ou vertical, tel qu'il fut ensuite pratiqué dans la Grande Guerre. Mes principes étaient absolument justes, ils n'ont même pas reçu encore leur pleine application. J'écrivais au Times un article où j'exposais mes vues, mais à ma connaissance, il n'eut pas de résultat. Cependant, je m'évertuais à trouver le moyen de convertir un fusil en obusier. J'avais fixé à la hausse une grosse aiguille nouée au bout d'un fil. Quand j'élevais tout droit le fusil, l'aiguille s'inclinait en travers du fût et je marquais la place. Mon idée, c'était ensuite d'abaisser lentement le fusil en graduant le fût sur des portées de 200 yards, de 400, et ainsi de suite, afin qu'il n'y eût qu'à pencher l'aiguille sur la marque exacte pour envoyer une balle plongeante à distance voulue. Le difficile était de déterminer exactement les portées. Dans cette intention, je me rendis à l'étang de Frensham. Là, parmi les roseaux, abaissant à peine le canon de mon fusil, je pressai la détente. Peu s'en fallut que la balle ne me tombât sur la tête. Je ne pus localiser la chute, mais j'en entendis fortement le bruit. Ce qui me confondit, et me confond encore, c'est le temps qu'elle mit à se produire. Je comptais, montre en main, 50 secondes entre la détonation et la chute. L'incrédulité du lecteur ne m'étonnerait pas, je serais tout prêt à la partager, mais le fait est là, tel que je viens de le dire. Je me proposais de marquer sur le fût les distances où l'eau jaillirait au choc de la balle. Mais j'eus beau tirer sous divers angles, nulle part je ne vis jaillir l'eau. Un petit homme, qui pouvait être un artiste, fit soudain irruption dans ma solitude. « Peut-être désirez-vous savoir où sont allées vos balles ?»« Oui, monsieur. »« Eh bien, monsieur, je peux vous le dire. Elles sont tombées en rond tout autour de moi. » Je compris que si je ne voulais pas que mon obusier couchât sur la place sa première victime, je ferais mieux de m'arrêter. Il était clair que ma charge, beaucoup trop forte, envoyait mes balles si haut dans l'air que je perdais toute faculté de direction. Une balle 2 fois plus lourde et une charge beaucoup plus faible eussent mieux servi mon dessein. Après cela, d'autres occupations vinrent me détourner de mes recherches, mais je suis sûr qu'en travaillant le détail, j'aurais fini par obtenir un feu convergent qui eût nettoyé en Afrique du Sud n'importe quel copse. Convaincu que mon idée non seulement présentait un intérêt pratique, mais répondait également à une nécessité, j'en fis l'objet d'une communication au War Office. Elle me valut la réponse suivante. War Office, 16 février 1900. Monsieur, en réponse à votre lettre concernant un moyen d'adapter les fusils aux tirs en hauteur, le secrétariat d'État à la guerre me charge de vous dire qu'il ne veut pas que vous tourmentiez à ce sujet. Je suis, monsieur, votre obéissant serviteur. Signature illisible, directeur général de l'artillerie. Ainsi donc, que mon invention fût ridicule ou qu'elle fût au contraire, comme je crois, radicale et destinée à faire époque, on ne m'accordait pas la chance de l'expliquer ou de l'éprouver. Comme je l'écrivis dans le Times, rien de surprenant à ce que nous trouvions les plus récentes inventions dans les mains de nos ennemis plutôt que dans les nôtres quand ceux qui essayent de perfectionner nos armes reçoivent le genre d'encouragement que j'ai reçu. De telles traditions devaient se perpétuer chez nous jusque dans la Grande Guerre. Pomeroy, l'inventeur de la balle inflammable qui abattit les zeppelins, fut sur le point de retourner désespéré en Nouvelle-Zélande. Ce furent, me dit-on, des balles privées, et non pas officielles, qui démontrèrent la valeur de sa découverte et forcèrent le tardif agrément du War Office. L'heure de mon embarquement approchait. Ma femme était allée à Naples, dans l'espoir qu'un climat plus chaud achèverait sa guérison. J'avais réglé toutes mes affaires. Je partais à titre gratuit, emmenant à mes frais, pour le service commun, mon maître d'hôtel Clive, un brave homme et un débrouillard. Ainsi, je conservais mon indépendance, et je pourrais m'en retourner quand il me plairait, ce qui, en raison du tour que prirent les événements, me fut d'un précieux avantage. Nous fûmes passés en revue par le vieux duc de Cambridge dans une salle d'exercice militaire à Londres. Je fus, en cette occasion, le héros d'une de ces aventures baroques qui semblent m'avoir été plus communément des parties qu'à la généralité des hommes. Vêtu de l'uniforme kaki tout flambant neuf, coiffé du casque colonial, nous attendions l'inspection du prince. On nous eut demandé de nous former par quatre, que cela eût fait un gâchis complet, mais par bonheur, nous restâmes comme nous étions, rangés sur une double ligne. Je me trouvais sur le flanc gauche de la première. Bien que regardant fixement devant moi, je pus voir, du coin de l'œil, le vieux duc arriver de mon côté avec sa suite. Il ne tarda pas à s'arrêter devant moi. Je me raidis encore, je regardais par-dessus sa tête. Il restait là, tellement près, que je pouvais entendre et presque recevoir son souffle. Je me demandais avec un étonnement secret ce qui pouvait bien se passer. À la fin, le duc parla. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Puis, plus haut, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Et pour la troisième fois, dans une sorte d'extase, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Je ne s'y ai pas, mais un groupe de journalistes à ma droite étouffa mal un concert de fou rire. L'humoriste Laver, dans ses moments les plus drôlatiques, a-t-il imaginé, pour un de ses personnages étreignant l'uniforme, une situation pareille devant le commandement suprême de l'armée britannique et l'oncle de la reine? Ce qui, paraît-il, tarabustait le bon vieux gentleman, alors octogénaire, c'est que les boutons de ma tunique ne portaient aucun emblème, chose pour lui sans exemple dans l'armée de sa majesté. Une couronne ou une étoile aurait pu suffire, mais rien du tout, cela le bouleversa, car il était à cheval sur le chapitre de la correction en matière de tenue militaire. À cet égard, le roi Édouard lui ressemblait. Au milieu d'un bal donné en son honneur dans l'Inde, quand il n'était encore que prince de Galles, un de mes amis vit accourir à lui un aide-de-camp très excité qui commença tout de go. Son Altesse royale m'envoie vous dire, et lui signala là je ne sais quel défaut de son costume. « J'en parlerai à mon tailleur, » répondit mon ami. Ce qui était, je crois, une façon de ramener l'affaire à ses justes proportions. Après la revue, les officiers furent rassemblés pour être présentés au duc, qui nous adressa au petit bonheur quelques mots aimables. La journée ne lui ménagea pas les émotions. Après l'incident des boutons, vint un commencement d'incendie. Des rideaux prirent feu durant notre déjeuner au Claridge, ce qui occasionna un remue-ménage de quelques minutes. Le duc nous fit, avant de sortir de table, un speech très déplacé. « On m'a mis au rancard, » dit-il, « sous prétexte que j'étais trop vieux. Mais pour vieux que je sois, je n'aurais pas fait autant de sottises que... » Et il nous énuméra toute une suite de mesures qu'avait pris son successeur Lord Wolseley. La presse lui fut clémente, elle s'abstint de reproduire ses paroles. Nous nous embarquâmes le 28 février 1900 à Tilbury, sur le transport oriental, qui emmenait avec lui divers détachements de troupes. À Queenstown, où nous prîmes la milice royale écossaise, une bande d'Irlandais tumultueux nous lança une serviette blanche en nous criant « Vous pourrez en avoir besoin !» Les Écossais, hommes rudes, comptaient parmi leurs officiers un bon nombre de hauts personnages territoriaux, Lord Henry Scott, Lord Tewkesbury, Lord Newport, Lord Brakeley, d'autres encore. Le colonel Garstin, du Middlesex, exerçait le commandement général. La monotonie d'une traversée de 3 semaines ne fut rompue que par un match de cricket au Cap-Vert, une conférence sur la guerre que je fis à tous les hommes, sur le pont, dans le rayonnement d'un clair de lune tropicale, et une vaccination contre la dysenterie, mesure purement facultative alors qu'elle aurait dû être obligatoire, car elle sauva beaucoup d'existences, y compris peut-être la mienne. La Grande Guerre a montré l'efficacité de ce traitement. Nous perdîmes plus d'hommes en Afrique australe par la dysenterie que par les balles, et il est triste de penser que presque tous eussent pu être sauvés si on avait estimé à sa valeur la découverte d'Almos Wright. Le frère de Wright, officier du génie, était à bord. Il fut particulièrement éprouvé par le vaccin, qui du reste nous rendit tous malades, car on n'avait pas encore déterminé la juste dose. Nous atteignîmes le cap à la date du 21 mars. Le port regorgeait de navires. Il y avait là 50 grands vapeurs à l'ancre, vides pour la plupart. Nous fûmes quelques-uns qui descendîmes à terre, mais ce n'est pas sans peine que nous remontâmes à bord, car la houle était trop forte et le petit remorqueur n'osait accoster trop près. Nous devions profiter d'un mouvement du roulis pour sauter sur une échelle pendante où un quartier-maître nous agrippait. Exploit facile pour certains, mais que d'autres envisageaient avec effroi, et je m'étonnais de la chance qui nous épargna un drame. Nous n'eûmes à déplorer qu'un accident singulier. Toute une rangée de soldats nous regardait par-dessus le bord, quand soudain je vis le rire moqueur de l'un d'eux faire place à une expression d'horrible souffrance, et le malheureux poussa un cri sauvage. Cependant, il restait là, immobile. Plusieurs hommes coururent à lui, et on l'emporta. J'appris ensuite qu'une énorme barre de fer était, par hasard malencontreux, tombée sur son pied et l'avait cloué sur place. Il s'évanouit au moment de sa délivrance. Il avait le pied broyé. Je passai plusieurs jours à terre, à l'hôtel du Mont Nelson. Une foule l'encombrait, qui était un pêle-mêle d'officiers blessés, d'aventurières et de cosmopolites. Kitchener, survenant, eut vite fait de purger un lieu où se mêlaient à ses combattants trop de sirènes. Les nouvelles de la guerre prenaient un très bon tour. La bataille de Parkburg était gagnée, Lord Roberts s'était ouvert le chemin de Bloemfontein, Kimberley devait son salut à French, dont le retournement immédiat contre Cronje avait été l'une des aspirations de cette guerre. On éprouvait un soulagement à constater qu'il était possible de capturer les bourgs par masse, car la longue suite de leur succès, alors que les conditions les favorisaient, avait créé autour d'eux un halo de légendes. Il m'avait été remis à Londres quelque argent à des fins charitables. J'eus l'idée d'aller voir au camp des prisonniers bourgs si j'en avais l'emploi. Le terrain du camp était un hippodrome. Entre ces clôtures de fils de fer barbelés était parquée une multitude de gens sales, hirsutes, mal peignés, mais qui tous gardaient le port et la mine d'hommes libres. Il y avait bien parmi eux un petit nombre de faces cruelles et brutales. On y distinguait quelques métis, mais la plupart semblaient de très honnêtes garçons. L'effet général était formidable. Certains avaient de vraies crinières, comme des lions. Je visitais dans la nuit les tentes des malades. Plusieurs, tristement assis en cercle, riaient parfois sans gaieté des mots incohérents que jetait un de leurs camarades en proie au délire. Un autre, dans un coin, avait un visage fier avec des yeux d'aigle. Il me salua d'un air de grave courtoisie quand je lui remis un peu d'argent pour ses cigarettes. Je me trompe bien si ce n'était pas un huguenot. Nous attendions toujours des ordres quand, inopinément, le 26 mars, nous quittâmes le cap pour East London, où nous arrivâmes le 28. J'eus sitôt débarqué la surprise d'y rencontrer Léo Trevor, qui s'était fait une réputation d'acteur amateur. Il était là comme officier de transport. En dépit de son zèle, et non point, j'espère, grâce à lui, notre matériel d'hôpital fut partagé entre deux trains, si bien que lorsque nous arrivâmes à Bloemfontein, une moitié s'était égarée en route pour aller s'engouffrer dans le chaos général. Il est certain détail nocturne de ce voyage que je n'oublierai jamais. Le grondement du train dans les ténèbres, les feux au long de la voie ferrée, les groupes sombres qui se profilaient sur les flammes, les cris de « qui vive » et les voix rauques de mes camarades criant « Cameronien !» car le fameux régiment de ce nom voyageait avec nous. Merveilleuse chose que l'atmosphère de la guerre. Quand viendra le jour promis où le Christ doit établir son règne parmi les hommes, le monde, certes, y gagnera beaucoup, mais il y perdra son plus grand frisson. C'est une région curieuse et tourmentée que le Veld, avec ses grandes plaines verdoyantes et ses collines au sommet plat, vestige de quelque extraordinaire convulsion géologique. Le pâturage y est maigre, la nourriture d'un seul mouton exige deux acres, ce qui explique la dispersion des maisons. Celles-ci étaient de petites fermes blanches, très éloignées les unes des autres, chacune ayant son bouquet d'eucalyptus et son bief. Quand nous traversâmes la frontière de l'État libre, sur un pont de fortune à côté des ruines de l'ancien, il n'y avait pas une ferme qui n'arborât le drapeau blanc. Tout le monde semblait de bonne humeur, burghers et soldats. La guerre de partisans vint ensuite modifier cet état de choses. C'est le 2 avril, à 5 heures du matin, que nous atteignîmes enfin la capitale de l'État libre. On nous envoya sans façon, campés hors de la ville, dans un vaste pré déjà occupé par toutes sortes de campements et d'animaux. Les bourgs étaient, disait-on, en force dans le voisinage, et quelques jours auparavant, ils avaient coupé une de nos colonnes au poste de Sana. Des troupes se mettaient en route. Avec Wine, que j'avais connu en Égypte, et Claude de Crespigny, ce grand sportsman, Je partis derrière elle pour voir ce qu'il y avait à voir. Un artilleur m'avait prêté sa monture. Bien entendu, il n'y eut rien à voir, le principe du bourg étant de venir toujours à son heure et non à la vôtre. Seule une aimable compagnie me fit oublier les ardeurs d'une longue journée. Une aimable compagnie est une consolation en campagne. J'eus la chance de rencontrer beaucoup d'amis, soldats, médecins, journalistes. Knight, du Faucon, avait hélas été blessé dans une des premières batailles et se trouvait aujourd'hui à l'hôpital. Julian Ralph, vétéran de la presse américaine, Bennett Burley, vieux et rétif cheval de guerre, le petit Melton Pryor, si cocasse, toujours tiré à quatre épingles, et qu'on eût pris pour le directeur d'un collège chic, Donoyue aux yeux noirs, correspondant du Chronicle, Patterson l'Australien, fameux sur la Snowy River, composaient ensemble un choix d'hommes admirables. Mais je n'eus guère de temps pour jouir de leur société, car parmi les files de wagons chargés qui s'allongeaient à plusieurs milles de distance sur les voies de garage, j'avais, à ma grande joie, découvert la moitié manquante de notre équipement, et je commandai un détachement de corvées chargé d'en reprendre possession. Nous travaillâmes durement tout le jour. Avant le soir, nos tentes étaient dressées, notre hôpital en état de fonctionner. 48 heures plus tard, des fourgons dégorgeaient à nos portes blessés et malades. Notre vraie besogne commençait. On nous avait assigné pour emplacement le terrain de cricket. Le beau pavillon nous servirait de grande salle. Nous en eûmes vite créé d'autres, car les tentes ne nous faisaient pas défaut. Chacun de nous avait la sienne. Une marquise remplissait l'usage commun de mess. Nous étions prêts à n'importe quel effort raisonnable, mais celui auquel nous devions être soumis passait de beaucoup nos forces. Nous allions avoir un terrible mois. J'en fus averti d'une façon aussi simple que dramatique. Le pavillon contenait une baignoire. Quand j'en tournais le robinet, pas une goutte d'eau n'apparut, bien que l'eau coulât encore librement la veille au soir. J'appris ainsi que les bourgs avaient coupé les canalisations de la ville. Il nous fallut recourir aux anciens puits, d'où résulta une recrudescence de dysenterie qui nous coûta 5 000 existences. Le seul tort de Lord Roberts, dans une campagne qu'il conduisit de façon magnifique, fut de n'avoir pas réuni d'abord le monde dont il eût pu disposer pour préserver les ouvrages hydrauliques, distant seulement de 20 000. Au lieu de cela, il attendit que l'armée fût remise de ses fatigues et l'exposa ainsi à l'épidémie. Mais il est facile d'être sage après l'événement. Le mal fit d'effroyables ravages. On en atténua la gravité pour le public, on censura lourdement les correspondances de presse. Mais nous vécûmes au milieu de la mort sous sa forme la plus ignoble, la plus répugnante. Nous étions organisés pour recevoir 50 hommes, on nous en envoya du coup 120. L'espace entre les lits était jonché de malades et souvent de moribonds. Notre linge non plus que notre matériel n'avait été calculé pour un pareil nombre, et s'agissant d'une maladie qui engendre une pollution constante, d'un caractère spécialement dangereux et méphitique, on imagine ce qu'était la situation. La pire salle d'opération après une bataille eût été un lieu propre comparé à notre pavillon. À l'une de ses extrémités se dressait une scène de théâtre où s'était planté le décor de la célèbre opérette « Le tablier de Sa Majesté ». Nous en fîmes un cabinet d'aisance pour ceux qui pouvaient se traîner jusque-là. Tout le reste fut approprié à l'avenant. Nous nous arrangeâmes nous-mêmes aussi bien que possible. Mais un Vera Chagin eut trouvé un sujet de toile à sa convenance dans cette salle affreuse, avec ses rangées d'hommes aves contemplant stupidement son théâtre enfantin. Au plus fort de notre misère, 2 infirmières apparurent parmi nous. Anges de lumière que je n'oublierai jamais, non plus que la façon dont elles soignèrent nos pauvres garçons. Elles les emmaillotaient comme des bébés, elles s'empressaient à leurs moindres besoins avec autant de gentillesse que de courage. Grâce à Dieu, elles sortirent de là saines et sauves. 4 semaines passent vite dans le bien-être, mais qu'elles sont longues dans de pareilles conditions, au milieu de spectacles, de bruits et de miasmes horribles, quand se poussent partout des nuées de mouches, qu'elles recouvrent toute nourriture et que chacune est porteuse d'un germe infectieux. C'était déjà dur pour nous alors que nous disposions de tout notre personnel, mais le surmenage ne tarda pas à déprimer les hommes. Venus, presque tous, des manufactures de coton du Lancashire, ils étaient couverts de taille et mal nourris, ce qui ne les empêchait pas d'avoir l'âme vaillante. 12 sur 15 contractèrent la maladie, ajoutant ainsi aux fatigues des bien portants. 3 moururent. Par chance, le corps d'officier demeura tout entier valide, renforcé par un docteur Schwartz du Cap. Si le fardeau nous pesait aux épaules, nous étions soutenus par l'idée qu'il ne justifiait que mieux notre présence, et surtout, il nous paraissait plus léger devant la patience admirable dont nos malades faisaient preuve. Le soldat anglais peut grogner dans le temps de paix, je ne l'ai jamais entendu murmurer en face d'une mort repoussante. Notre hôpital n'était pas pire que les autres, et comme il y en avait beaucoup, la condition générale de la ville était très mauvaise. Inutile de songer à faire des cercueils. Les hommes, enroulés dans leurs couvertures brunes, étaient enterrés dans des fosses peu profondes, à raison de 60 en moyenne chaque jour. Une odeur écœurante s'exhalait de la ville. Un jour, que pour changer d'air, j'avais fait une course à cheval, le vent ayant tourné, je fus comme enveloppé de miasmes à la distance d'au moins 6 000. Vous respiriez Bloemfontein longtemps avant de l'apercevoir. Aujourd'hui encore, si je sentais cette odeur infâme que la maladie compose avec les antiseptiques, le cœur m'en chavirerait. Enfin, la situation prit meilleure tournure. L'armée s'était ébranlée. Les hôpitaux du front absorbaient une partie des malades. Nous avions repris, presque sans coup férir, les ouvrages hydrauliques. J'avais accompagné les troupes chargées de les reprendre. Je passais la nuit sous un fourgon, n'ayant sur les vêtements qu'un léger manteau. À mon réveil, j'éprouvais un froid comme je n'en avais ressenti de ma vie, un froid qui n'était pas seulement de surface, mais qui me faisait l'effet d'un corps solide à l'intérieur de moi. Tout donnait à prévoir une bataille pour le lendemain matin, car nous avions été bombardés pendant la nuit, et il semblait que l'ennemi fût décidé à tenir la position. Les troupes, commandées par Ian Hamilton, n'avancèrent donc qu'avec prudence. Mais aucune résistance ne se produisit, et nous ne vîmes de l'ennemi que quelques silhouettes d'observateurs sur les collines lointaines. Il s'était retiré à la faveur des ténèbres. Nous passâmes, dans notre avance, le guet du poste de Sana où s'était produit le désastre de la semaine précédente. Les pauvres chevaux de l'artillerie gisaient encore par monceaux à l'endroit où ils avaient été frappés. Toutes sortes d'objets s'éparpillaient sur le sol, bandes molletières, ceintures contre le choléra, havre-sac, casques brisés. Il y avait aussi une profusion de papiers à cartouches bourre portant la mention « balles fendues » fabriquée par le gouvernement britannique. Je ne conçois pas ce que cela signifiait, ni d'où venaient ces cartouches, car nos soldats n'étaient certainement munis que de la balle pleine « Lee Metford », comme j'en jurerais pour avoir visité maintes cartouchières. J'eus l'impression d'une ruse ingénieuse destinée à justifier des atrocités. Pourtant, jusque vers la fin de la guerre, le bourg se conduisit en ennemi loyal et sans malice. Le mouvement de Hamilton marqua le début de la grande avance. Maître des ouvrages hydrauliques, il tourna au nord et constitua l'aile droite de l'armée. Sur sa gauche marchait la 7e division de Tucker, puis la 6e division de Kelly, la 4e division de Paul Carey avec la garde, et enfin toute une masse d'infanterie montée, y compris la yeomanry, le corps colonial et les irréguliers. Tel était l'ensemble des forces qui, dès les premiers jours de mars, entreprirent leur marche de front pour balayer le pays de Bloemfontein à Pretoria. L'hôpital avait recouvré un peu de calme. Trouvant le loisir de nous absenter, Archie Longman et moi partîmes rejoindre l'armée à sa première étape. J'écris bien un récit des faits alors qu'ils étaient tout neufs dans ma mémoire. On m'excusera de le reproduire, il aura plus de vie et de précision que le souvenir qu'il me reste après 20 ans.